un rendez-vous avec l'actualité 19h dans les médias Accent d'Europe. Très bonne fin de journée sur RFI.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe, Radio G vous propose de vous donner de la visibilité en participant à la 7e édition de Radiovision, le concours de chansons de Radio G. Il vous suffit de proposer une chanson originale, texte et musique, et de remplir le formulaire sur radiovision.fr. Si vous êtes sélectionné, vous participerez au concours et vous serez soumis au vote du public en étant diffusé sur le site et l'antenne des radios partenaires. Inscription libre et gratuite avant le 19 avril 2026 sur radiovision.fr.
Dimanche 15 février de 8h à 19h. Pousse la porte de Radio G à Angers. Tu t'es déjà demandé comment se fabrique une émission de radio ? Viens découvrir l'envers du décor. Visite les studios et assiste à des émissions en direct et échange avec les animateurs et bénévoles de Radio G.
T'es curieux, passionné ou juste un simple auditeur ? Radio G t'ouvre grand ses portes. Entrée libre et gratuite, dimanche 15 février de 8h à 19h, 3 rue de la Rame, Angers.
Plus d'informations sur radio-g.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Il a fallu que je me batte très fort pour la déloger de la place qu'elle me prenait de plus en plus. Sidonie, bonsoir. J'ai pu reprendre ma place d'animation. Merci de m'avoir suppléé pendant 2 jours.
De rien, de rien.
C'est bon, ça te manque pas trop déjà ?
Non, ça va, ça va. Je vais reprendre un jour ou l'autre, donc ça va.
Mais oui, très prochainement. Peut-être, pourquoi pas, dès lundi prochain. On verra ça ensemble. Est-ce que toi, tu es fan de foot ou pas ?
Fan, c'est un grand mot. Je regarde à l'occasion.
Tu connais le foot, en tout cas ?
Oui.
Tu le pratiques ?
Non.
Non.
Jeune, oui, mais...
Ouais, bah peut-être que c'est parce que c'est trop intense en termes de cardio, comme on peut dire. Donc si jamais c'est un petit peu trop intense à ce niveau-là, tu peux aussi le faire en marchant. Et c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec tes invités. Loris, bonsoir.
Bonsoir.
On parle de foot en marchant,
c'est
du coup.
C'est ça, on parle de foot en marchant. Bah, on va en parler tout à l'heure. On va découvrir cette façon de pratiquer le football.
Et oui, on sera avec David qui est joueur, avec Ghislaine qui est joueuse et championne du monde 2025 de foot en marchant, et Thibaut qui est manager du NDC Notre-Dame-des-Champs à Angers, qui propose notamment le foot en marchant. Donc on découvre tout ça au cours de cette émission qui sera ponctuée de l'agenda culturel avec Suzanne autour de 18h34, de la chronique d'actualité de Mathéo à 18h45, et puis de quelques pauses musicales pour agrémenter tout ça. Topette, c'est parti pour la dernière de la semaine.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, vous le savez, on a la chance d'accueillir Esteban en stage en 3e cette semaine dans Topette, et c'est lui ce soir qui nous fait un point sur l'actualité.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
On commence ce flash info avec un procès. Hier, un homme de 80 ans a comparu devant le tribunal judiciaire d'Angers pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2017 ainsi que dans les années 90. Les faits se sont déroulés le 26 octobre 2024 à Auray d'Anjou. Ce jour-là, l'octogénaire avait la garde de la fille et de la nouvelle compagne de son fils, âgé de 11 ans. Entre baisers et caresses déplacées, le comportement de l'accusé aurait profondément marqué la jeune fille. Son avocate, maître Aude de la Selle, évoque même une journée en enfer pour la mineure. L'homme a finalement été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont un en ferme, qu'il effectuera sous la forme d'un bracelet électronique. On continue avec un incendie qui s'est déclaré ce jeudi matin, un peu avant 7h, dans une exploitation agricole. Cette dernière se situe dans le nord-est du Maine-et-Loire, à Cheviré-le-Rouge. C'est un bâtiment de 400 mètres carrés qui abritait un troupeau et de l'engrais qui s'est embrasé. Le toit, fragilisé par les flammes, s'est effondré. Vers 9h, 28 pompiers étaient sur place pour lutter contre les flammes. Ils ont pu circonscrire le feu et empêcher les risques de propagation. Le propriétaire, qui a réussi à évacuer ses animaux en temps voulu, a bénéficié de l'assistance des secours. Et on finit avec le Angers Comédie Festival qui commencera dans quelques heures et qui se terminera le 15 février. Il enflammera les plus belles salles de la ville. Cette deuxième édition du festival angevin réunit 62 artistes humoristiques. Ils se succéderont sur scène avec pour seule mission d'amuser le public. Du grand théâtre au centre des congrès, l'humour angevin s'y déploiera à travers une programmation dense et variée. Une édition pensée pour célébrer les talents d'ici et d'ailleurs, avec un seul objectif, faire rire.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Esteban et bravo pour ce point sur les actualités locales angevines. Je te pose la question à toi aussi, est-ce que tu pratiques le foot peut-être ?
Alors plus maintenant, mais grand supporter de Saint-Etienne.
Ah oui, c'est vrai, ça c'est important de le préciser, c'était l'objet de ta chronique de mardi dernier. Est-ce que tu connaissais le foot en marchant ?
Pas du tout.
Eh ben reste avec nous parce que ça va être le sujet de la soirée. Mais avant d'accueillir nos invités, les invités de Loris même, on vous rappelle que le Pont d'Ardoise fait ses représentations de père, impair et père de Rekounet. C'est mis en scène par... Alors j'ai pas ma feuille sous les yeux, donc je le fais de tête. On a des dates qui arrivent très prochainement, courant février et même un peu plus tard en mars ou avril à Angers. Donc on vous renvoie tout de suite vers leur site internet. Compagnie lepontdardoise.fr. Et puis sinon, voilà, en description du podcast, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et nécessaires. Et maintenant, on accueille nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Avec un sujet qui va plaire à la personne qui va poser des questions à nos invités, justement, Loris, qui a toujours mal qu'on rappelle que Esteban est fan de Saint-Etienne, car lui, grand supporter du FC Nantes. Et justement, on va pouvoir parler de foot, mais d'une manière étonnante, qu'on ne connaît pas forcément, Loris.
C'est ça, on va parler d'une pratique qui est encore assez méconnue, mais qui se développe de plus en plus. C'est le foot en marchant, donc une façon de rejouer au football sans courir, sans contact, mais avec toujours autant de plaisir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Thibaut, d'abord manager du club NDC, Ghislaine, joueuse de foot en marchant et championne du monde, et David Rousselot, joueur au NDC et pratiquant de cette discipline. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Du coup, avec eux, on va découvrir ce qu'est vraiment le foot en marchant, à qui ça s'adresse et pourquoi ça marche, et comment cette pratique est en train de prendre de l'ampleur ici dans le Maine-et-Loire. Mais on va commencer par essayer de comprendre les règles. Déjà, par exemple, toi David, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques phrases en quoi ça consiste le foot en marchant ?
Alors, le foot en marchant, c'est comme le foot qu'on connaît bien, sauf qu'il y a trois règles essentielles. Il y a plus de règles que ça, mais il y a trois règles essentielles. On ne court pas, donc on marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher vite, donc on apprend à marcher vite. Il faut toujours avoir un talon au sol. Il n'y a pas de ballons qui doivent dépasser 1m70, 80. 1m80, c'est ça. Me précise Ghislaine. Donc 1m80 de hauteur. Donc le ballon dépasse 1m80, on remet le ballon au sol. Donc ce qui invite à jouer au sol, en fait, et ça, on en parlera plus tard dans l'émission, mais moi je trouve ça vraiment top parce que c'est très technique. Et pas de contact, du coup. Donc ce qui évite les blessures et ce qui évite. Voilà, c'est les trois grandes règles. Ghislaine, il y a peut-être d'autres règles, mais c'est les trois premières grandes règles, en fait, qu'on nous apprend dans le foot en marchant.
1m80, c'est à peu près la taille d'une personne, Ghislaine. C'est-à-dire que c'est comme ça que définit l'arbitre si oui ou non c'est au-dessus du 1m80?
Oui, tout à fait. C'est une balle haute et c'est balle au sol.
Ok. Donc ce sport, il vient d'Angleterre, c'est ça?
C'est ça.
Comment il s'est exporté jusqu'à Angers? Comment t'en as entendu parler? Tu t'es mis à le pratiquer?
Alors, il existe en Angleterre depuis une bonne dizaine d'années. Alors, dans les compétitions, Ghislaine vous en parlera, les Anglais sont c'est les favoris de chaque tournoi. Donc, d'où la performance des filles et de Ghislaine. C'est arrivé en France plutôt sous forme de foot santé, je crois. On n'appelait pas ça foot en marchant. C'était plutôt proposé à des personnes qui étaient à la retraite, qui avait arrêté de pratiquer le foot depuis 10, 20 ans, et puis qui avait envie de retrouver un esprit de vestiaire et de rejouer au foot, et de manière très adaptée. Donc on appelait ça foot santé, c'était plutôt proposé par les CCAS, en fait, dans les villes, et puis la Fédé s'en est emparée récemment, et a développé, en fait, Thibaut vous en parlera, parce que c'est lui qui avait été contacté sur NDC, en tout cas, la fédération, en fait, a voulu mettre en place dans les clubs de foot, en fait, le foot en marchant.
Ok, et cette discipline, elle est... Elle est pour qui? Pour les anciens footballeurs, des gens qui n'ont jamais fait de foot?
C'est ça, parce qu'elle est, elle est pour tout le monde. Et les premiers qui y viennent, c'est plutôt souvent des personnes qui étaient vétérans, qui ont arrêté le foot, et puis qui se disent, bah, pourquoi pas, je vais pouvoir reprendre. Elle est hyper inclusive, parce que je, sur les différents plateaux qu'on a vu, qu'on, sur lesquels on joue, il y a un plateau à peu près par mois, auquel on n'est pas obligé de participer, mais du coup, j'avais vu un jeune en situation de trisomie, en fait, qui était au club de Beaupro, qui jouait avec nous. J'ai vu sur le club de Ghislaine à Foot de Cœur quelqu'un qui était en situation de handicap, qui avait 17-18 ans, qui jouait avec son père et qui n'avait pas la possibilité de jouer dans une équipe de jeunes de club, mais qui du coup jouait aussi. Donc c'est mix, femmes-hommes, en fait, on est mélangé. Il y a tout âge, il y a toute situation de handicap ou pas, et ça, c'est fabuleux.
Et par exemple, Ghislaine, toi, ton profil à toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire le foot en marchant?
Alors, ben, moi, je joue au foot, enfin, depuis l'âge de 13 ans. Et donc, à partir d'un certain âge, on est un peu plus limité. Donc, ce qui fait que j'ai découvert le foot en marchant il y a 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Et donc, on m'a sollicité pour venir faire une séance découverte à Foot de Cœur, le club dans lequel je suis. Et donc, j'ai fait une première séance découverte, hein, en sachant que j'avais beaucoup rigolé quand on m'avait proposé le foot en marchant. Hein. Ça fait sourire. Et puis, la première séance se passe bien. Je redécouvre les mêmes sensations que sur un vrai terrain de foot, en fait. Et puis, je redemande à faire une deuxième séance pour conforter si je vais prendre une licence ou pas. Et puis la deuxième séance, eh bien, je décide de signer effectivement parce que ça répond à mes attentes aujourd'hui. Et puis, je suis toujours footballeuse.
Et toi, Thibaut, par exemple, comment t'as entendu parler de ça, du foot en marchant, et comment tu t'es émis?
Ben nous, il y a un des bénévoles du club qui s'appelle Georges Boutier qui intervenait avec nous dans différents secteurs du club et qui a eu l'occasion de pratiquer un peu de la même manière que Ghislaine sur une séance de découverte, et puis qui s'est dit que ça collerait bien au projet d'NDC que de pouvoir ouvrir ce type de pratique. Donc en fait, on a fait une tentative sur une séance d'entraînement en milieu d'année, ça devait être en février à ce moment-là, la saison dernière, c'est ça. Et en fait, on a proposé à qui voulait venir de venir essayer. L'avantage à NDC, c'est que dès qu'on parle de foot, il y a toujours un peu de monde pour venir sur le terrain s'essayer et puis pratiquer. Et puis ça a plutôt bien marché. La première séance, on était une dizaine. Et puis petit à petit, on s'est retrouvé à 12, 14. Alors certes, au début, avec quelques éducateurs qui venaient dépanner un peu ponctuellement pour réussir à faire les séances. Et puis très vite, en fait, les amis des amis des amis sont joués un peu aux séances. Et finalement, cette année, on a ouvert vraiment une pratique avec une séance par semaine.
Il y a une règle qui change pas mal de choses, c'est le zéro contact. Concrètement, ça change quoi sur le terrain, dans la manière de jouer?
Il n'y a plus de faute, ça veut dire?
C'est un bien grand mot. sur les fautes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au contact, pas le droit au tacle, pas le droit au coup d'épaule. Il faut toujours que le joueur ou la joueuse soit en sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit non plus de venir par derrière, hein, et de prendre le ballon.
Et comment on fait du coup pour prendre le ballon?
Eh bien, on est toujours en face à face ou en côte à côte.
Donc il y a une certaine science du déplacement, faut réfléchir à où va aller le ballon, la trajectoire, c'est assez intéressant. Et quand on regarde un match de foot en marchant, ça ressemble quand même à du foot, on peut le dire.
Oui,
c'est du foot, c'est plus lent.
Oui, c'est plus lent. Donc techniquement, il faut avoir une assez bonne technique pour pratiquer le foot en marchant.
Oui, mais c'est également ouvert à des personnes qui n'ont pas forcément joué au foot. On a, par exemple, dans l'équipe des plus de 50 ans, des personnes qui n'avaient jamais joué auparavant. C'était un rêve de petite fille. Et avec le foot en marchant, elles ont pu en faire et progresser. Et donc, même atterrir en équipe de France.
Tout à l'heure, Ghislaine, en introduction, je disais un peu en plaisantant que c'était une question de cardio. Bien évidemment que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts physiques pendant qu'on marche avec le foot en marchant. C'est juste que ça permet d'être plus accessible aussi aux personnes qui ne cherchent pas forcément une intensité.
Tout à fait, tout à fait. On a beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont aussi des problèmes cardiaques. et donc qui sont en mesure de pratiquer cette activité et les médecins signent les licences.
Pour rebondir un peu sur la question de Pierre Benoît, est-ce qu'il y a encore des clichés qui freinent un peu le développement du foot en marchant?
Oui, c'est sûr. En fait, enfin, quand on...
Parce que Ghislaine la première se disait il y a 3 ans, ouais, bon, foot en marchant, ça l'emballait
c'est
pas
ça,
trop. Quoi.
Nous aussi, on a un peu rigolé. Enfin, moi, j'avais pas pratiqué le foot depuis 30 ans. Donc, en fait, et j'avais été sollicité dans le club pour m'y investir, en fait, en tant que dirigeant ou bénévole. Et j'avais été sollicité pour être dans l'équipe de vétérans. Et en fait, je m'enviais pas, notamment pour des questions de blessures. Je m'enviais pas de me blesser et puis de reprendre une pratique de foot en courant. Et du coup, j'avais été interpellé par ça. Donc, je suis venu essayer, en fait, par curiosité. Puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré parce qu'en effet, on pratique le foot. Moi, à la fin de ma séance d'entraînement, je suis mort parce que je donne ce que je peux. Puis du coup, on apprend à courir vite. Et du coup, en termes de cardio, en fait, on est bien.
Marcher vite, tu veux dire, peut-être?
Marcher vite, courir. Ouais. Ouh là là.
Tu marches tellement vite que tu as l'impression de courir, en fait, c'est ça?
Peut-être, c'est possible. Des fois, on est repris sur les plateaux, du coup, on dit, mais là, tu cours. Donc voilà, on apprend à marcher vite. Et du coup, je me trouve totalement, parce qu'en fait, il n'y a pas de blessure, en effet, et puis il n'y a pas de gros risques de blessure. Et en termes cardio, en fait, c'est vraiment chouette. En fait, après, on y donne ce qu'on veut. Moi, je trouve que j'ai réappris aussi à me placer dans le jeu. Enfin, tu disais tout à l'heure, on y apprend à gérer des bonnes passes, à gérer un bon placement et avoir une bonne vision du jeu parce qu'on n'a pas le choix. En fait, quand on fait une passe qui est mauvaise, et ben le coéquipier, il peut pas courir pour aller chercher le ballon. Alors que dans le foot qu'on connaît, si on fait une mauvaise passe puis que le coéquipier a une bonne pointe de vitesse, ben il peut aller chercher la balle. Là, on peut pas. Donc en fait, on réapprend à se positionner. J'ai vu sur des plateaux, on commence à voir en fait des personnes qui jouaient au foot à 11, en fait, qui arrivent sur le foot en marchant. Et c'est pas toujours un avantage parce que du coup, c'est les personnes qui vont vite, qui jouent vite et qui, du coup, perdent souvent le ballon parce que c'est des plus petits terrains. Et avec une équipe qui a l'habitude de jouer au foot en marchant, qui a une vision du jeu, qui prend le temps de poser la balle, qui prend le temps de venir en arrière, on voit qu'on est finalement plus fort en allant moins vite, en fait, du coup. Mais donc voilà. Donc on commence à avoir des personnes qui arrivent. Moi, ça fait 1 an et demi que je pratique. Au départ, grossièrement, il y avait très peu de gens qui arrivaient du foot directement au foot en marchant, en fait. C'est des gens qui avaient pas pu pratiquer depuis un moment. Mais on commence à les voir arriver, à se questionner, puis à tenter. Mais tant mieux, en fait, du coup, c'est chouette.
Je poursuis ta question, Loris, avant une pause musicale, en destination de Thibaut. Est-ce que, sur la manière dont t'es vu le foot en marchant, vu que c'est tout récent, finalement, son développement, est-ce que NDC, c'est parfois un petit peu regardé de travers par les autres niveaux qui sont proposés?
Ouais, ça peut l'être. Alors moi, en plus, j'ai la chance d'avoir la double pratique. On parlait des vétérans tout à l'heure. Je joue à la fois en vétéran et puis je viens faire les séances avec le foot en marchant. Et donc, il peut y avoir ce regard, ouais, sur le foot en marchant ou du foot sans contact et sans course. Est-ce que vraiment c'est possible? Et pardon, les quelques-uns qui essayent adoptent souvent assez vite la pratique parce qu'on l'a dit, en fait, on y retrouve aussi, on enlève certes le duel, certes le jeu long où on va pas avoir de ballon aérien et donc du coup on retrouve pour les fans de jeu à la nantaise du jeu au sol, du déplacement et ça c'est super agréable et c'est le plaisir que moi j'y trouve.
Ah, le jeu à la nantaise qui se porte bien en ce moment ou pas, je sais pas, on va en discuter pendant la pause musicale. Loris, si tu me permets, on va écouter Papillon sur le 101.5 FM, on revient ensemble juste après.
Je ne trouve pas le temps de me séparer de mon hamac. Je n'entends jamais de vent qui ride les eaux de mon lac. Tic-tac, rythme du cardio, toujours glisse plus haut, au-dessus de zéro. Toute la piste va s'affoler, brûler, brûler les feux follets. Mais qui peut arrêter le DJ? Quand tout est speed et trash, on reste, on s'arrache comme d'une fête ratée. Quand tout est speed étrange, le démon qui me démange, c'est de me balancer. Balancer au gré des passions, balancer et laisser faire. Mais s'il faut se bagarrer, je suis pas de gilet pare-balles. Je préfère carrément me barrer. Quand tout est speed et trash, on reste, on s'arrache comme une fête ratée. Quand tout est speed et tranche, le démon qui me démange, c'est de me balancer. Balancer au gré des passions, balancer, laisser faire. Quand tout serait tellement beau si on était le monde à l'envers. Balancer au gré des passions, écouter pousser tes cheveux. Un jour je serai papillon, je volerai où je veux. J'ai pas appris sur le papier, ni les pas, ni le prix qu'il faut payer. J'ai pas les nombres ni les mots, bercés au chant des animaux. Balancer au gré des passions, balancer, laisser faire. Oh, tout serait tellement beau si on mettait le monde à l'envers.
Papillon de Théophile sur le 101.5 FM.
Loupette avec Pierre Benoît sur Radio G.
On continue notre marche en avant dans cette émission en parlant du foot en marchant avec toi, Laurie, c'est tes invités.
Oui, bon, là, on va un peu plus s'attarder sur votre parcours. Par exemple, je me tourne vers toi, Ghislaine. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et notamment ton titre de championne du monde de foot en marchant?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé, moi, le foot, j'avais 13 ans dans différents clubs. Et donc, à 55 ans, j'ai commencé à faire du foot en marchant. Et donc, il y a eu des sélections d'organisées. Donc, j'ai pu faire partie de la sélection des plus de 50 F. Et donc, on s'est inscrite, enfin, la FFM, qui est l'association française de foot en marchant, nous a inscrite sur la Coupe du Monde à Alicante en octobre dernier. Donc nous y sommes allés, nous sommes tombés dans le groupe avec 7 équipes, et on a pu faire 2 matchs par jour sur 3 jours, où on a terminé deuxième, et puis ensuite on a joué les demi-finales contre le Canada et la finale contre les Anglaises. Et donc les Anglaises étant l'équipe à battre, hein, puisque ce sont eux qui ont inventé le football en marchant, ils sont très doués. Et donc l'équipe 50F a battu les Anglais en finale, les Anglaises en finale. Les autres, les femmes de plus de 40 ans, donc elles ont terminé deuxième. Et puis les garçons, donc les les garçons de plus de 50 ans, de plus de 60 ans et de plus de 70 ans ont respectivement perdu en quart de finale.
Tu peux nous raconter un peu le déroulé de cette finale contre les Anglaises? Du coup, de ce que j'ai compris un peu, c'était une surprise de les battre.
Ah ben, on était motivés pour les battre, hein, déjà. On avait une équipe hyper soudée, beaucoup de solidarité et très stressée également, hein, parce qu'effectivement, c'était l'équipe à battre. Hein, et on n'a rien lâché. On n'a rien lâché.
Et la sélection de l'équipe de France, du coup, féminine, ça se passe comment? C'est par niveau? C'est par volontariat?
Alors, c'est par volontariat, mais il faut aussi avoir le niveau pour accéder. C'est pas que la volonté qui fait que. Il faut avoir une certaine technique, il faut avoir la vision du jeu, il faut savoir se déplacer. Ça demande de la condition physique, hein, puisqu'on s'est toutes préparées, tiens, à cette compétition, hein, avec des exercices à faire que notre coach nous donnait.
Question peut-être très bête, Ghislaine, mais je me permets de la poser. Est-ce que l'équipe de France de foot en marchant est inclue au sein de toutes les équipes de France de foot globalement de la FFF, ou ça n'a rien à voir, c'est d'autres structures?
C'est d'autres structures, hein. C'est la FFM.
Donc c'est autre chose?
Oui, l'association de foot en marchant qui est, on va dire, qui a une convention avec la FFF.
Et tu l'as dit précédemment que tout le monde n'avait pas joué au foot avant de se mettre au foot en marchant. Mais est-ce que là, dans la sélection féminine, c'était le cas pour tout le monde?
On a deux joueuses de la sélection des F50 qui n'ont pas pratiqué le foot en club ou du foot à 11. Elles ont démarré sur du foot en marchant.
Ah, merci Ghislaine, je vais me tourner un peu pour changer vers David. Toi, ton parcours de footballeur avant le foot en marchant
J'ai fait le parcours jeune, j'ai arrêté à 18 ans, en fait, du coup, pour faire mes études, pardon. Donc voilà, j'avais pas rejoué au foot, j'ai rejoué au foot avec les copains, mais pas en club depuis. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, donc voilà, ça fait 30 ans que j'avais pas pratiqué. Donc voilà, c'était chouette. Après, je revenais aussi, j'avais déjà un réseau social important en étant bénévole et tout ça, mais c'était aussi faire une pratique de sport, du coup, pour retrouver les copains, en fait, une fois par semaine. Le jeudi soir, donc ce soir je suis pas à l'entraînement, je suis à l'émission, et donc voilà. Mais chaque jeudi soir, je vais avec les copains des 18h à 19h, et puis c'est chouette, il y a une bonne ambiance. Juste pour dire, on parlait des plateaux et puis de l'équipe de France, donc c'est top, il y a de la compétition, mais aujourd'hui on est 18 je crois dans l'équipe NDC, on est 8 à faire les plateaux, en fait très régulièrement, il y a 10 personnes qui viennent en fait régulièrement, qui jouent pas les plateaux, mais il y a le plaisir de se retrouver jeudi soir et de jouer ensemble, et ça suffit.
Et peut-être question bête, mais l'équipe de France masculine, c'est un objectif pour toi?
C'est pas mon objectif. Non. J'adore faire les plateaux, je découvre. Et de toute façon, je peux pas être sélectionné parce qu'il faut avoir chez les hommes au moins 50 ans. Donc voilà, j'ai 49 ans cette année. On verra bien plus tard, mais c'est pas un objectif du tout.
Non, c'est pas un objectif.
C'est le plaisir de participer aussi au club, en fait, d'avoir aussi lancé cette nouvelle équipe, en fait, au club NDC, ce qui est nouveau. Donc voilà, et puis de favoriser ça.
Et par rapport à l'âge que tu cites, du coup, ça veut dire Thibaut que le foot en marchant s'adresse plutôt à une tranche d'âge vétéran, je sais pas. Il y a des vétérans, en gros, c'est ceux qui peuvent plus être dans les championnats. Ça existe déjà, ça.
Il y a des championnats vétérans à partir de 33 ans. On a une liste. Comme en vétéran en l'occurrence, il y a des championnats dédiés qui sont certes moins orientés compétition que les championnats pour les plus jeunes et pour les seniors, même s'il y a quand même un classement, il y a des coupes et des trophées à gagner.
Et le foot en marchant, du coup, ce serait des tranches d'âge encore supérieures. Par exemple, Esteban, est-ce qu'il a des propositions pour pouvoir faire du foot en marchant, lui, s'il voulait?
Ce que disait David, le sens de la pratique aussi. Alors certes, il est un peu orienté sport santé, et donc le public, il est bien souvent de cet ordre-là, mais le volet intergénérationnel a du sens dans cette pratique-là. Et pour le coup, précisément, nous, dans le cadre du club, l'enjeu, c'est aussi d'avoir des pratiques qui puissent regrouper au-delà de la simple compétition, de se dire, on va pouvoir jouer ensemble, quelle que soit mon expérience du foot, quel que soit mon niveau de pratique. Je vais pouvoir jouer aux côtés d'autres licenciés qui ont la même passion que moi, et précisément ça fait sens.
Donc là on est 2, 4, 6, 8, 10, c'est combien sur une équipe de foot en marchant qu'il faut être?
C'est 5 ou 6.
5 ou 6, donc là on pourrait faire une équipe sans problème, quoi.
Carrément. Mais ce serait bien même sur les... En fait, la semaine prochaine par exemple, il y a un stage de foot à NDC, et les plus petits en fait vont avoir une matinée de foot en marchant. Du coup mon fils me voit pratiquer le foot en marchant, et du coup des fois a mis ça en place dans son école. Et je trouve que même pour pouvoir inclure tous les enfants qui sont pas footeux, en fait, du coup, c'est une bonne pratique parce qu'on pose le ballon au sol, en fait, c'est hyper malin. Et du coup, tout le monde peut jouer, en fait, sur la cour de récré.
D'autant plus qu'on sait maintenant, il y a eu des analyses, des observations qui ont été faites, que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à courir, plus de la moitié d'un groupe de jeunes n'arrivent pas à courir 5 minutes. Voilà, donc le foot en marchant, ça peut être une bonne porte d'entrée pour reprendre pied avec le sport, justement. On continue à en parler du foot en marchant avec Loris et ses invités, David, Thibaut et Ghislaine. Mais avant tout ça, on fait un point sur l'actualité culturelle locale, et peut-être même un petit peu au-delà, avec toi, Suzanne.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir Suzanne.
Bonsoir Pierre-Benoît. Je vous fais un petit point en prévention, car ce week-end, le paysage va se teindre de rouge. Les esprits vont se troubler, les vitrines vont crouler sous les cœurs en plastique et les fleuristes vont être pris d'assaut. Vous l'avez compris, je parle de la Saint-Valentin. Mais plutôt que de pleurer sur votre célibat, exploser votre budget ou vous forcer à réserver un restaurant hors de prix, je vous propose une alternative bien plus réjouissante. On commence avec le festival Les Éclectiques. Festival emblématique de musique actuelle du Maine-et-Loire, il propose chaque année 4 rendez-vous. La collection automne, hiver, printemps et été. Une programmation audacieuse des artistes aux univers variés et souvent inattendus. Depuis la semaine dernière à Cholet, la collection hiver se termine demain à la Collégiale Saint-Martin à Angers. Il reste encore des places pour ce soir et demain dès 20h. Sur scène, Superpose, CG Bess, Léonie Pernette, Herman Dune, un festival aux valeurs précieuses et intimistes. Rendez-vous sur leur site et leur billetterie pour en savoir plus. Et si la Saint-Valentin vous met d'humeur morose, je crois avoir trouvé l'antidote parfait. Le Angers Comédie Festival revient à partir du 12 au 15 février 2026. Partout dans la ville, au Grand Théâtre, au Centre des Congrès, Palace Comédie et au Cinéma Pathé, l'humour est partout. Plateaux d'artistes, formats courts et shows spéciaux portés par des talents angevins et des invités venus d'ailleurs. Le temps fort du samedi 14 février à 13h est au Palace Comédie. C'est le format 26x3. 26 humoristes, 3 minutes chacun, une entrée gratuite, un format rapide, efficace, sans temps mort. Et pour les amateurs de grandes affiches, deux grands shows réunissant 33 artistes, chacun défendant ses meilleures blagues en 3 minutes chrono. Et pour ça, j'ai quelques noms. Lola Dubigny, Tristan Pierre, Douli, Louis Trottignon, Édouard Dolognon. Rendez-vous sur leur site et leur page Instagram pour découvrir tout ça. Enfin, pour préparer votre semaine prochaine, le festival S'achauffe revient du 23 au 28 février 2026 pour sa 18e édition. Plus d'une vingtaine de compagnies investissent murs et rainiers et les poncées pour mêler théâtre, danse, musique, petits et grands sont invités. Les spectacles auront lieu au Centre culturel Jean Carmet, à l'Espace Bellevue ou au Théâtre des Dames et à la salle Nelson Mandela. Tous accessibles aux personnes aux mobilités réduites. Cette édition met en lumière la vitalité artistique du territoire et rendra hommage à Marie Gaultier, figure marquante du festival, lors d'une soirée spéciale. Un véritable moment d'émotion, de convivialité et de découverte. Alors cette année, pour la Saint-Valentin ou autre, offrez-vous autre chose qu'un bouquet de fleurs. Offrez-vous du rire, de la musique et un spectacle vivant. C'était mon agenda culturel et à bientôt.
Eh bien, merci beaucoup, Suzanne, pour ces bons conseils de sortie loisirs et culture dans le département et pour les prochaines dates. Alors, il y a pas mal de choses qu'on évoquera aussi dans Topette, notamment le festival. Ça chauffe la semaine prochaine, mardi prochain, avec le CCJC. Nous continuons et nous concluons même avec notre sujet de la soirée.
Topette sur Radio G.
Que ce soit, on parle toujours du foot en marchant avec Ghislaine, Thibault et David et Loris, du coup, qui pose ces précieuses questions à nos invités. Loris qui découvrait le foot en marchant ce soir. Toi, déjà, est-ce que tu as un premier regard, une première ouverture qui se fait par rapport à cette discipline dont tu ignorais tout jusque-là?
Oui, carrément, carrément. C'est super intéressant et franchement, j'aimerais, pourquoi pas, essayer. Un jour.
C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est David ou Ghislaine.
Chaque jeudi soir, en tout cas, je sais pas comment ça se passe à Foot de Cœur, mais du coup, il y a plein de clubs sur le département, mais en tout cas, à NDC, tous les jeudis soirs, 18-19, c'est ouvert à tous. En fait, on est hyper ouvert à ce que les personnes viennent essayer, pratiquer.
Et au-delà du sport, j'aimerais plutôt poser des questions sur l'ambiance et du coup, plus le rendez-vous avec les gens. Comment ça se passe en dehors du terrain? C'est aussi un moment de pour retrouver des gens, pour...
Ghislaine parlait du lien social en hors antenne, c'est pour ça aussi.
Alors, nous, tous les vendredis soirs, on a une séance d'entraînement. Et donc, on se retrouve tous. On est une vingtaine, à peu près. Donc, on fait plusieurs équipes. Et puis, on joue. Et après, on se retrouve tous en train de papoter sur... on fait ça au futsal du SCO. Et donc, on boit un verre ensemble. Des fois, on amène une galette des rois, des fois des crêpes, des fois des gâteaux, des choses comme ça. Et donc, ça permet aussi aux personnes qui sont un peu seules, eh bien, d'avoir du lien social et puis de partager un bon moment. C'est très convivial, on rigole bien.
Et l'ambiance, je me tourne vers Thibaut, elle est comment par rapport à un foot, par rapport à un club de foot classique? C'est la même chose?
On garde l'esprit du foot, mais à l'heure où l'enjeu prend parfois le pas un petit peu sur le jeu, je trouve qu'il y a une ambiance qui est plus sereine aussi et qu'il n'y a pas cet enjeu du résultat justement de la fin. On est là pour pratiquer et mon sentiment c'est que sur le match comme après, le sens qu'on a c'est vraiment le jeu, le foot et le plaisir du temps passé ensemble. Parfois sur la pratique compétitive, alors ça a son intérêt aussi, hein, mais on peut perdre ça en ayant vraiment l'enjeu, le stress allié à la pratique, à la compétition, au résultat du match. Et en tout cas, moi je prends plaisir aussi à ça, à quel que soit le résultat du match, on a passé un bon moment ensemble. Et en effet, sur les après-entraînements ou les après-matchs, quand ça dure un peu plus longtemps que l'entraînement, en général c'est bon signe.
Justement, Thibaut, le foot est parfois pointé du doigt pour les dérives qu'il y a en tribune ou sur le terrain. C'est peut-être la question que tu voulais poser, Loris. Bah, vas-y, je te laisse la poser, du coup.
Non, mais est-ce que, du coup, il y a moins de dérives
Est-ce qu'on retrouve pas le plaisir, en fait, c'est ça, hein?
C'est ça.
Moi, je trouve, alors, encore une fois, je pointe pas du doigt la compétition et puis ce qui peut se passer. Évidemment, il y a des dérives et dans la pratique classique, on trouve aussi des états d'esprit qui sont positifs. Donc, l'idée est pas de descendre la pratique compétitive au profit de foot en marchant. Mais en effet, je trouve que la pratique, malgré tout, est plus sereine et qu'on se reconcentre sur le jeu et le plaisir de jouer.
Selon toi, plus globalement, qu'est-ce qui freine le développement à l'heure actuelle du foot en marchant ?
Je dirais la méconnaissance de la pratique, parce que malgré tout, elle reste relativement nouvelle, et donc petit à petit, les gens la découvrent. Mais si je prends le Maine-et-Loire, alors Gislaine et David en parleront mieux que moi, parce que je suis moins présent sur les plateaux, donc je vois moins les équipes. Mais par le passé, il y avait des plateaux avec 5-6 équipes qui étaient là. Et là, de plus en plus de clubs, je vois les différents groupes et les différents plateaux fourmiller. Il y a vraiment de plus en plus de monde qui pratique, donc bah ça aide aussi à faire venir les gens et avoir toujours plus de clubs qui s'y investissent. Et puis voilà, ça souffle, quoi.
Toi, David, t'en parles à tes amis, à ta famille, comment on développe le foot en marchant?
Ouais, j'en parle beaucoup, parce que j'ai découvert une pratique qui est chouette, qui est maligne. Et du coup, en effet, l'an dernier, il y avait que 7-8 équipes par plateau. Aujourd'hui, on est 6, ouais, c'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on est une bonne vingtaine, parce qu'il y a 22 groupes qui se créent. Ça explose. Donc c'est top. J'espère que ça va garder en fait cet état d'esprit. En fait, que je suis d'accord avec Thibaut. En fait, il y a plein d'équipes dans le foot plus classique, en fait, où ça se passe très bien. Donc c'est vrai que je veux pas pointer du doigt tout ça, mais j'espère que du coup cette atmosphère va rester, et puis que du coup on va pas commencer à être très compète, en fait. Du coup, c'est bien. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a presque pas besoin d'arbitre. Il y a pas d'arbitre d'ailleurs sur nos plateaux, très peu. Donc
c'est les joueurs automatiquement.
Bah pour l'instant, il y a pas assez d'arbitrage. Donc en fin d'année, il y a toujours un tournoi. En fait, l'an dernier, c'était à la Flèche, où du coup il y a quelques arbitres officiels, mais là en fait on s'auto-arbitre. Bon, bah des fois ça chicane un petit peu quand même, mais du coup on parle du coup, mais on arrive encore à s'auto-arbitrer, c'est très bien.
Et il faut savoir que David est un excellent promoteur de tout ce qui est pratique sportive un peu singulière et étonnante, puisque du coup, on vous renvoie vers le podcast de ses précédentes apparitions dans Topette. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Loris, sur le foot en marchant?
Non, pour finir, pour quelqu'un qui nous écoute et qui a envie d'essayer, on fait comment concrètement?
Eh bien, il contacte un des 15 clubs aujourd'hui qui sont inscrits au foot en marchant.
Tu sur parles en France ou...
Non, sur le département.
Ah oui, c'est quand même pas mal.
Hein, on a commencé à faire les plateaux, on avait 5 clubs, et donc en un an, on a plus que doublé, puisqu'on est à 15 clubs qui sont inscrits sur le
Donc sur Angers, il y a Foot de Cœur, dans Foot de Cœur, dont fait partie Gislaine, sur Angers, il y a NDC, j'en connais pas d'autres sur Angers, mais du coup, il y en a à Andard, il y en a à GT, il y a
Montreuil-Junier...
Et on peut même préciser qu'il y a aussi pour d'autres sports comme le rugby. Hein, le rugby touché, il y a Touché Rugby Aubance qui existe, je crois, du côté de Brissac par là-bas. Voilà, c'est le même principe. On marche, il n'y a pas de plaquage au violent. Donc voilà, c'est aussi d'autres pratiques sportives qui peuvent exister d'une autre façon. Vous restez avec nous, vous trois, toi aussi, Loris. On va conclure l'émission dans quelques instants. Mais avant tout ça, Mathéo nous fait sa chronique d'actualité.
En 1934, France. Les habitants de l'Hexagone font face à la pauvreté, le chômage, les scandales financiers. Les royalistes et les nationalistes prennent de plus en plus de place dans l'espace public et médiatique. Un an après l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne, l'extrême droite se donne le droit de manifester avec dans un coin de la tête l'idée de prendre le pouvoir, mais pas de manière démocratique. La volonté réelle, c'est de mettre en place un système autoritaire qui t'a passé outre le droit. À l'initiative de ce rassemblement, plusieurs ligues d'extrême droite, dont l'Action française, un mouvement politique composé de membres comme Charles Maurras ou Maurice Pujot, qui s'allieront en 1940 avec le maréchal Pétain, avant évidemment de collaborer avec les nazis par la suite. Le 6 février, c'est donc à cette date que des milliers de sympathisants d'extrême droite vont se réunir devant la Chambre des députés à Paris. Leurs leaders veulent faire un coup d'État, prendre le pouvoir par la force, et la manifestation dégénère. Place de la Concorde, la police ouvre le feu contre des militants armés souhaitant marcher sur le palais Bourbon, et le bilan est lourd, 19 morts et 1435 blessés. Le gouvernement de l'époque démissionne le lendemain, mais le mal est fait. L'extrême droite a essayé de prendre le Parlement, mais a échoué en portant dans cette défaite la vie de nombreuses personnes, car si dans ces morts se trouvent effectivement des personnes personnes affiliées à des groupes fascistes, royalistes et nationalistes. D'autres ne sont que des citoyens victimes de faux-semblants qu'on leur a fait miroiter. Cette date est marquante dans l'histoire de France et si aujourd'hui je vous en parle, c'est car le fond réel de cette journée est détourné. Vendredi dernier, plusieurs sympathisants d'extrême droite se sont rassemblés à l'initiative du raid à Angers, avenue Jeanne d'Arc, pour commémorer cette journée, parlant d'injustice de la République. Une tradition nationale pour eux, un hommage qui se veut être une célébration de l'usage de la force contre le vote, d'une insurrection fasciste pour réécrire l'histoire. L'extrême droite française ne s'en cache pas, cette journée ils la voient comme le moment où ils ont presque failli prendre le pouvoir, une réécriture typique de ces mouvances, cacher le passé pour préparer un avenir similaire. C'est ce qu'a démontré Valérie Higounet, spécialiste de l'histoire du FN, donc du RN, en étudiant le parti. L'extrême droite utilise ces dates pour deux choses, faire en sorte que leurs militants se voient comme des héritiers de combattants et maintenir une ambiguïté en célébrant une date antirépublicaine tout en jouant le jeu démocratique pour se dédiaboliser. Alors si nous couplons ça avec les travaux de Gustave Le Bon et sa psychologie des foules, on a la recette d'un cocktail explosif. Les manifestations ont ce don de jouer sur les affects primaires de l'homme. Le citoyen devient la masse, la réflexion se change en sensation et dans certains cas, raisonner disparaît alors. Ne plus penser lorsqu'on n'en a plus l'intention et que l'on est dépassé par ce que l'on ressent physiquement. Les rassemblements sont donc historiquement centrés sur des causes communes pour fédérer. Qu'elles soient d'intérêt public ou de simples célébrations, mais l'extrême droite les détourne. À Bormaz, vous voyez les manifestations comme un outil de délibération. Les mouvements sociaux permettent d'intégrer des voix dans le débat démocratique, de fédérer autour d'une cause pour convaincre la société. Or, le problème de l'extrême droite, c'est d'imposer de force, on l'a vu plus tôt, et surtout de vouloir exclure, quitte à stigmatiser. Alors pourquoi manifester ? Pour provoquer et pour intimider, car se mobiliser n'est pas une coutume de l'extrême droite qui se manifeste certes dans la rue, mais de manière plus vicieuse. Il peut s'agir d'un regard, d'une réflexion, et même parfois et trop souvent d'une agression. À Angers, plusieurs sont sortis dans la presse, celle subie par des syndicalistes de l'UNEF en mars dernier, ou encore une autre, deux mois plus tôt, subie une nouvelle fois par des étudiants, frappés physiquement après le refus de faire un salut nazi. Les différents propos portés par les politiques et les médias d'extrême droite résonnent sur la terre du roi René et certaines agressions ne sortent même plus dans la presse. C'est le cas pour Victor, il est animateur au centre Jean Villard et il nous livre son témoignage.
Je rentrais de soirée, il devait être 4h30, 5h. Et là, il y a trois individus qui m'interpellent. Il y en a un qui commence à m'appeler Moussa. Un petit sourire narquois aux lèvres. Donc je me dis bien que c'était fait exprès quoi. Moi, je prends le même chemin qu'eux parce que je rentrais chez moi et pendant que je pars chez moi, que je retourne chez moi, il y en a un des trois qui se retourne et qui vient me voir et qui me dit « Ouais, tu cherches du taf ». Du coup, moi, un peu dépourvu, je lui dis « Bah non, moi, je travaille à la Roseraie, je suis au centre Jean Villard, enfin, j'ai ma situation, quoi ». Il me dit « T'es sûr ? Parce que les gens comme vous, on les connaît, vous êtes toujours là à gratter le RSA, donc vraiment, si t'as besoin, je peux trouver du taf ». Et du coup, s'ensuit une dispute. Et j'en garde des séquelles parce qu'après ça, j'ai une balafre au visage. Ils se sont mis à trois sur moi. C'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça reste quand même pas la première fois.
Le propre de l'extrême droite, ce n'est pas de demander plus de droits, mais bien au contraire, elle cherche à priver les gens de leurs acquis. Et c'est donc à cause d'elle qu'un recul s'opère. Le cas de Béziers est particulièrement parlant. Une ville tombée dans les griffes de l'extrême droite et de son maire, Robert Ménard, proche de la famille Le Pen. Baisse des subventions pour la culture, mise en place d'un journal propagandiste, ouvertement homophobe, raciste et misogyne. Et une impunité policière qui a coûté la vie à Mohamed Gabzi le 8 avril 2020, assassiné par la police biterroise après un contrôle. Si jamais le cas de la Séville française vous intéresse, il y a d'ailleurs sur le sujet un très bon documentaire, Béziers, l'envers du décor, de Daniel Kupferstein, pour que vous vous rendiez compte un petit peu donc de ce que c'est qu'une ville dirigée par l'extrême droite. Personne ne souhaite véritablement voir sa ville pourrir autant. Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi rassemblées dans une contre-manifestation le 6 février, toujours à Angers, à l'initiative du collectif Vigilance et de plusieurs syndicats antifascistes. Et même si ces rassemblements font du bien, ils existent car le danger est plus réel que jamais. À quelques semaines des municipales, il faut garder en tête une chose, en théorie la mairie c'est le dernier rempart de la proximité, le lieu dans lequel le quotidien est géré. Or si l'extrême droite l'infeste, leur vision du monde rentrera par la grande porte et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Angers est une terre malade dont seuls les Angevins possèdent le remède face à cette imposture sociale. Nous pouvons douter, mais parfois avoir de l'assurance peut être bon et lutter contre l'extrême droite est un devoir civique et moral. Et n'oubliez pas une chose, le parti Horizon et certains de ses membres faisaient partie du gouvernement en place à l'époque de la loi Darmanin-Le Pen. Il ne faut pas se tromper d'ennemis, mais voter bien, c'est aussi et surtout de savoir qui sont réellement des alliés.
Merci beaucoup Mathéo pour cet édito d'actualité, même toujours de plus en plus engagé et presque militant. En tout cas, c'est voilà un beau message à la fin qui encourage les gens à exercer leur citoyenneté aussi, leur droit, devoir de vote, parce que c'est aussi comme ça qu'on décide.
Bah, c'est important.
plus que par d'autres actions. Voilà, la violence. D'ailleurs, bref. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines. T'avais des lectures à proposer,
ouais,
j'ai l'impression.
Exactement, deux, trois petits bouquins qui sont pas très chers en plus. Donc, je sais que forcément, on n'a pas tous les moyens de s'acheter des livres, etc. Donc, Antonio Gramsci, Combattre le fascisme, c'est un des livres historiques, justement, à ce niveau-là, comme Umberto Eco, Reconnaître le fascisme. Et puis, enfin, Résister, Salomé Sacquet, qui vient d'être réédité d'ailleurs, donc est disponible un petit peu partout, comme les deux autres livres que je vous ai cités avant.
Voilà, éduquez-vous avec le maximum d'ouvrages.
Ils sont pas très loin, c'est des 100 pages, donc c'est pas très dur à lire.
Exactement. Éduquez-vous simplement, informez-vous pour voter en pleine conscience. Voilà, ce serait le message un petit peu résumé de ton édito. On revient à nos invités, du coup, un sujet qui était pas du tout en lien, mais on était avec David, Thibaut et Ghislaine pour parler du foot en marchant. Alors, David s'empare du micro, c'est toi qui m'avais suggéré ce sujet, donc tu voulais peut-être rappeler des choses importantes par rapport au foot en marchant, les valeurs, les infos pratiques, comme Loris le demandait tout à l'heure.
Si j'ai un message, c'est même ballon, même passion, même plaisir, et malgré le fait qu'on puisse décrier le foot, je trouve ça nul au départ de décrier le foot sur le marchand comme quoi c'est de la marche, mais c'est même ballon, même passion, même plaisir. Faites du sport, en fait, que ce soit du foot en marchant, du cheval à deux pattes, ce qu'on avait parlé dans une autre émission.
Oui, je n'osais pas le prononcer parce que je ne sais pas si tu voulais séparer les deux, mais
non, pas du tout, pas de problème. Mais du coup, faites du sport, en fait, et donc soyez les bienvenus, en tout cas, sur la session de foot en marchant et au club NDC le jeudi soir, 18h-19h, dans la salle Bertin.
Et Ghislaine, toi qui le pratiques depuis 3 ans maintenant, et puis en plus avec un passif différent, hein, tu viens du foot en courant, je sais pas si on peut le dire comme ça maintenant, tu rejoins totalement ce que dit David ?
Oui, complètement, et je dirais, essayer, c'est l'adopter.
Voilà, le foot en marchant, pas David, même
non,
si David,
c'est
on peut l'adopter sans problème. Thibaut, c'est pareil, les valeurs, c'est évident, c'est cohérent pour NDC d'ouvrir cette pratique-là du foot en marchant. Ça participe aux valeurs, à l'ambiance qu'on veut donner. On avait parlé avec les 111 ans du NDC il y a un an et demi. Oui, et Valentin Dedon, du coup, c'est pareil. Les valeurs se retrouvent pleinement dans cette nouvelle discipline d'une certaine façon.
Oui, complètement. Le sens du club, c'est de permettre à tous de pratiquer le foot, quel que soit son niveau, son expérience, ses envies. Et pour le coup, cette pratique s'inscrit parfaitement dans les valeurs du club.
Et Ghislaine, je voulais juste revenir sur le championnat du monde que tu as gagné. Si toi, tu avais qu'un souvenir tout à l'heure avec Loris, vous les évoquiez, un souvenir qui serait très prenant dans cette parenthèse, dans ce moment de carrière, ce serait quoi? Le souvenir de la médaille, de la surprise de finalement avoir atteint l'objectif de battre les Anglaises?
Oui, c'est la surprise et puis tout le lien social que ça a mis autour. Et tout l'engouement également que ça a mis autour.
Et puis peut-être une petite technique, un conseil technique pour les personnes qui auraient commencé le foot en marchant, qui nous écouteraient actuellement, qui se diraient mais moi j'ai toujours du mal peut-être à marcher, j'arrive pas à marcher vite sans courir. Je sais pas s'il y a des choses techniques comme ça qui seraient importantes de préciser, que ce soit toi Ghislaine ou...
Eh bien on commence par le talon au sol.
Le talon au sol.
Talon pointe.
Et toi Thibaut, il n'y a pas des réflexes des fois un peu trop du foot en courant qui viendraient dans le coaching ou dans la pratique du foot en marchant?
Comme ça, non. En effet, l'enjeu, c'est vraiment la marche et puis le sans-contact. Le sans-contact, l'idée de pas aller jouer les duels, qui change évidemment de la pratique classique, mais qui rajoute aussi celle de devoir jouer sur l'interception et l'anticipation.
Et David, toi, t'as peut-être une...
J'étais OK sur la marche, j'étais OK sur le sans-contact. Le fait de pas prendre de risque, on a vu quelquefois des joueurs de club, en fait, s'être blessés et puis avoir besoin de temps pour revenir et puis revenir par le foot en marchant une fois qu'ils commençaient, puisqu'il n'y a pas de contact. Donc, ça, c'est top parce que ça crée du lien entre les équipes de foot classique, enfin, du foot classique, ouais, du coup, en courant, et qui reviennent au foot en courant en passant par la marche, en fait, du coup, et qui découvrent.
Avec le risque peut-être de rester au foot en marchant?
Ah ouais, c'est pas un risque, c'est une chance. Mais du coup, non, c'est très bien, en fait. C'est une équipe dans un club, en fait. Donc, on fait partie de ça. Et puis, si des fois c'est une étape où on passe, en fait, nous, on est prêts à ça. Donc,
Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir un petit peu détaillé ce soir ce qu'était le foot en marchant, ce qu'il est, ce qu'il va devenir même, et puis de nous avoir partagé vos témoignages, vos expériences. Merci Loris aussi.
De rien.
Tu nous enverras des photos, des stories de...
De moi qui fais du foot en marchant?
Bah oui, parce que j'ai cru que t'allais...
Ouais, sois le bienvenu pour tester.
Pourquoi pas.
Bon, et bah hâte de voir ça, peut-être dès ce week-end. Merci beaucoup d'être resté à l'écoute de Topette aussi. On se retrouve lundi à partir de 18h10. On sera avec... j'ai perdu, en tout cas, voilà, on sera avec des invités, bien évidemment, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bon week-end et Topette. Tu peux, Loris.
Topette.
Parce que comme Sidonie, elle est un peu plus loin du micro, tu peux prendre sa place.
déconnecté de moi-même, comme si je repoussais mon cœur pour ne pas qu'il me malmène. Mon corps ramène mon sort à mes veines. Qu'est-ce que j'ai vécu qui me gêne? Comme si je congelais mon heure. Amour ou mort, c'est pas si fort. Je congestionne mes peines. Marathon, fatigue se traîne. Visage aride, je force mon âme. Tout est plus long, tout est plus calme. Aucun moment n'est foudroyant. Je suis sur une pente progressive. J'en vis l'orage et les tourments. Avec un petit peu plus de vent qui tourne les pages et les instants. Quand le soleil brûle le jeu et que la pluie inonde les mains, ou simple geste est trop intense, c'est dur et bien, mais le cœur blesse autant.